6 février 2026, JPO de Talmetour. Amélie en troisième année qui va nous faire une petite visite de l'école.
Bonjour. Donc je m'appelle Amélie, je suis apprentie artiste, attention, en textile. Et on se trouve actuellement dans le hall où il y a tous les travaux des SES. Ça fait plaisir de voir leurs travaux parce que ça fait un bon moment qu'ils attendent un espace et ils l'ont enfin. Alléluia. Voilà, on va continuer.
On est l'asso Miou. Là, on fait une vente de gâteaux aux journées portes ouvertes pour avoir un peu d'argent pour financer notre prochain projet. Ce sera un défilé et de la musique, un petit concert, une jam, une expo, le 20-21 mai au Beaumont. Alors, l'association, elle s'est construite vraiment à partir de Céline et moi et d'une idée qu'on a eue de faire un défilé, de faire des événements artistiques, de rassembler des gens, notamment des femmes aussi, on peut dire ça. Et petit à petit, on a eu plus d'idées, plus de projets et voilà.
Jade, étudiante à Talmetour et qui fait partie d'une association.
Du coup, je fais partie d'une association qui s'appelle Ozar. Elle existe depuis quelques années. On l'a repris, donc on est beaucoup de deuxième année et troisième année. Donc on s'occupe de tout ce qui va être soirée d'intégration et on commence à mettre en place au fur et à mesure d'autres événements. On aide d'autres associations à se lancer. On est ouvert pour des projets étudiants aidés à financer.
Et là, par exemple, pour les portes ouvertes, qu'est-ce que tu fais ?
On a organisé toutes les journées portes ouvertes, donc des visites guidées de toute l'école, une buvette et une vente de gâteaux pour justement lancer les associations, l'accueil des étudiants en général, tout ce qui suit.
Peut-être comment ça se passe depuis le début, là ? Est-ce qu'il y a eu du monde ou pas du tout ?
Oui, on a eu pas mal de monde pour un vendredi après-midi. Je trouve qu'on est pas mal. Après, je pense que le maximum de monde va venir demain, samedi. Mais il y a des gens motivés, des élèves, des futurs élèves très intéressés. Donc oui, c'est agréable.
On est actuellement en train de marcher dans l'espace L3, L2 au Polar. C'est un endroit de création, un endroit souvent en ébullition. C'est un peu comme une fourmilière, on va dire. Les étudiants vont créer, étudier et devenir l'artiste qu'ils veulent être plus tard. C'est un endroit qui est bondé d'inspiration, qui permet aussi aux autres étudiants à parler entre eux, à travailler entre eux, à avoir un espace commun pour communiquer avec leurs œuvres ou avec des références qu'ils vont trouver à la bibliothèque. Du coup, voilà.
Et toi, ton espace, il est comment ? Est-ce que tu peux le décrire ?
Mon espace est vagabond. Moi, je n'ai pas forcément d'espace, entre guillemets, parce que j'ai des potes un peu dispersés dans tout le polar, c'est ce qui est cool. Mais majoritairement du temps, je travaille du côté des masters, malgré le fait que je suis une L3. Voilà. J'ai un autre espace où c'est plus un espace papotage, où je peux parler avec mes potes tranquille, sans forcément m'inquiéter du travail qu'il y a derrière. Parce que je trouve que c'est hyper important de séparer ces espaces, surtout quand on est en école d'art, parce que malgré les stéréotypes, c'est vraiment important en fait pour nous, parce qu'on est des étudiants qui travaillent beaucoup et durement, et on est très dur avec nous-mêmes. Et c'est important, ouais, de séparer nos espaces, avoir un espace où on peut parler tranquillement, sans forcément être entouré de notre travail ou justement être entouré d'autres pour que ça nous motive.
Sérigraphie. Donc là, avant de tirer, on nappe l'écran. ASMR.
Ouais, j'avoue, ça va être trop satisfaisant.
Et le nappage permet que l'encre ne sèche pas dans la maille de l'écran. Tu veux ? Vas-y. Vas-y, bosse.
Okay.
On y va ? Ok, c'est parti. Sérigraphie.
Tu vas faire laisser le jingle.
Voilà, ça doit... Peut-être ça commence à sécher, là. Ouais. C'est possible. Ouais, c'est trop beau. Encore ou pas ?
Moi,
ça y est, merci beaucoup. Ok, trop bien. Je fais un dernier sur les sopalins parce que j'aimais bien. Et après, on va...
L'autre.
On va laver l'encre et après, c'est l'encre. L'étape du dégravage pour rendre l'écran vierge à nouveau. Alors du coup, on a fait des marques sur la table pour caler les feuilles, pour savoir à chaque fois où est-ce qu'on va imprimer. Donc on place les feuilles, on a nappé l'écran et là on va imprimer. Il faut faire attention à l'angle de positionnement de la racle pour contrôler le dépôt d'encre. Et ensuite, on appuie bien, de façon homogène. Et là, ouais, je pense justement ça commence à boucher.
L'encre commence à sécher, ouais. C'est ça ?
C'est ça, parce que on en a bien tiré. Hop là ! Et donc, une fois qu'on a imprimé... Faut bien nettoyer l'encre, sinon ça sèche dans la maille. Et ensuite, on va passer au dégravage de l'écran. C'est-à-dire qu'on va retirer l'émulsion avec un produit chimique pour rendre l'écran vierge à nouveau et pouvoir recommencer à le réutiliser à l'infini.
Et c'est quoi un écran ?
Un écran de sérigraphie, c'est un châssis en métal ou en bois sur lequel est tendue une maille en nylon. À l'origine, c'est une technique... qui vient de Chine, et c'était de la soie. C'est pour ça qu'on dit silk screen en anglais. Et maintenant, c'est du nylon. Plus la maille est fine, plus on peut faire des détails fins. Par exemple, pour le textile, on utilise des écrans avec une maille un peu plus large pour qu'il y ait plus de dépôts d'encre qui viennent dans les fibres du textile.
Ok.
Voilà.
Sérigraphie.
Bonjour, alors moi je m'appelle Chloé Gomila, je suis en Master 1 en conservation-restauration des biens culturels à l'école Talm Tour. Voilà.
Et je m'appelle Anne Ricaer et je suis également en Master 1 de conservation-restauration des biens culturels.
Alors, comment ça se passe pour rentrer ici ?
Alors déjà, il y a un concours. Enfin, déjà, tu postules par Parcoursup si tu veux rentrer en L1. En première année, lettre de motivation, petit...
Ouais, lettre de motivation, un dossier, en général portfolio, un peu ce que tu as fait, ton parcours. Et après, du coup, tu as cette première étape, tu es présélectionné, et après, tu peux passer les concours. C'est des épreuves, alors tu as une épreuve de dessin, une épreuve de modelage, une épreuve un peu de science, une épreuve d'histoire de l'art... un entretien, et je crois qu'il y a un autre truc. Le concours évolue un peu chaque année, il faut regarder, mais globalement, c'est ça.
Ouais.
C'est ce genre d'épreuve. C'est assez complet comme concours.
C'est ça, en fait, il y a beaucoup de domaines différents qui sont testés. Après, t'es pas obligé d'exceller dans tout, mais c'est pour voir si, déjà, artistiquement, t'as une certaine sensibilité, tu t'en sors en modelage, dessin...
Si t'es à l'aise aussi, si t'as un peu une idée aussi de la déontologie, de... Voilà. Ils testent un peu ta volonté pendant l'entretien également.
Ouais.
Et en fait, du coup, c'est un concours que tu peux passer, du coup, après le bac, dès le post-bac. Mais actuellement, nous, c'est un peu 50-50. Il y a 40%, 50% d'étudiants qui sont vraiment juste, qui sont en sorte du bac, et l'autre moitié qui a déjà fait des études avant.
Licence d'histoire de l'art, de chimie.
Il y a quelqu'un qui a un DNCEP
en
art. Il y en a pas mal qui ont des parcours un peu variés avant de rentrer.
Ouais. En fait,
en général, c'est assez privilégié.
Privilégié,
j'arrive pas à le dire. C'est des profils qui sont plus privilégiés quand même. Ouais. Mais après, faut pas que ça inquiète les personnes qui sont vraiment motivées et qui sortent du bac. Ça les intéresse vraiment et que ça les motive. C'est tout à fait possible aussi.
Faut tester, quoi. Faut essayer. Rien n'est...
Désolée, ça fait beaucoup de blabla.
Oui, parce que il y a combien de places, en fait ?
Alors...
entre 4 et 6.
Ouais, c'est ça. 6, normalement. Après, ils sont pas obligés de remplir le quota de 6 tout le temps, quoi. Tu vois. Nous, on est rentrés, on était 5.
Maintenant, on est passé à 6 et après, on est revenu à 4.
En fait, oui, mais ça ne va pas aller beaucoup plus que 6 parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'espace ici.
Ça demande pas mal d'encadrement de la part des enseignants. Du coup, beaucoup d'élèves, c'est compliqué.
Ouais.
L'école, on le sait qu'il y a des problèmes d'espace. Et du coup, notamment, il y a aussi des problèmes d'espace pour nous, comme pour tout le monde.
Ouais.
Du coup, c'est Et puis on est une formation qui demande beaucoup, beaucoup d'espace pour mettre les œuvres, tout ça.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et concrètement, en master, on fait quoi ? On restaure une pièce ou...
Alors, en premier semestre de master 1, on est en stage avec des... Ce soit en France ou à l'étranger, en institution, avec des indépendants. Vraiment, c'est...
L'objectif, c'est voir vraiment un maximum de choses, de se rendre compte de la réalité du métier et de tester institution et aussi indépendant pour se rendre compte des différences et qu'est-ce qui nous plairait le plus potentiellement.
Quand on revient pour le deuxième semestre de Master 1,
En fait, on est un peu en autonomie.
Ouais.
On travaille sur des œuvres d'anciens diplômes, des œuvres de l'atelier. Nous, actuellement, on travaille sur 3 œuvres. C'est un cœur, un ancien diplôme, c'est un cœur en gélatine et en plâtre. Voilà, du cheval. Un masque de Papouasie-Nouvelle-Guinée et un Saint-Sébastien en bois avec de la polychromie.
Voilà, donc très varié niveau matériaux et tout.
Puis on travaille un peu en autonomie dessus, les protocoles ont déjà été faits, du coup on... Voilà. Et en même temps, en parallèle, on recherche nos œuvres de M2, voilà. Sur lesquelles on va faire notre mémoire en fait, et qu'on va restaurer entièrement.
Voilà, c'est ça, faire des recherches approfondies sur l'histoire de l'art, la manière dont la mise en œuvre de l'objet, faire des recherches scientifiques dessus, et puis le restaurer. C'est en ça que consiste la deuxième année.
Et le diplôme.
Ouais, du coup.
Et si on compare peut-être au cursus art, est-ce que ça demande beaucoup plus de travail ou...
On ne sait pas, parce qu'on n'est pas en art, tu vois. Mais il y a un certain investissement. Hein. Ouais.
Je pense qu'il faut demander si tu vas voir dehors, il y a Diane Louise.
Oui. Elle a fait un DNSEP, mais art.
Et après, elle est revenue, elle a commencé dès la première année ici.
Du coup, elle pourrait te dire les différences entre art et CRBC.
Et les différences de travail.
De charge de travail.
Nous, on travaille du coup beaucoup en cours, en atelier. On a quand même beaucoup de connaissances théoriques à avoir, finalement. Beaucoup de cours à réviser. En art, j'ai l'impression que c'est beaucoup de pratiques, finalement. Beaucoup d'expérimentation. Du coup, ça peut être en fonction de ta volonté. Ça peut être, je pense que ça peut prendre beaucoup de temps aussi extérieur. Du coup, voilà, je pense que c'est des différentes manières de travailler.
C'est sûr qu'il faut s'investir. De toute manière, tu t'en sors pas si tu passes pas du temps à travailler, quoi. Il y en a du travail. Voilà.
Alors là, je suis avec une autre étudiante de CRBC qui s'appelle Diane Louise. Bonjour.
Bonjour.
Il paraît que tu as fait un DNSEP avant d'arriver là. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est les différences entre art et du coup ce cursus-là, CRBC ?
Oui, pas de souci. Du coup, moi j'étais plus en céramique au Mans, du coup. Et c'était dans une certaine logique autour de la sculpture, du coup. Donc, puisqu'ici on est spécialisé œuvres sculptées en conservation des biens culturels. Et en fait, la différence, c'est que dans mon parcours, je ne me voyais pas être artiste. Je me voyais plutôt travailler pour la création, mais pas la mienne propre, donc plus pour le patrimoine. Mais quand même avec une approche où j'aime travailler de mes mains. Et du coup, la conservation-restauration, c'est assez scientifique. Enfin, c'est tout à fait scientifique, mais avec quand même une approche où il faut une certaine sensibilité, il faut pouvoir être à même d'intervenir sur plusieurs typologies d'objets. Et ça, à mon sens, regrouper les deux, ce qui m'intéressait le plus, quoi.
Okay. Et donc, tu as quand même passé le DNSEP et ensuite un concours ?
En fait, puisque j'étais à Talm déjà, en fait, il y a des moyens de passer des commissions, c'est-à-dire que moi, je m'apprêtais à passer le concours, je me suis préparée à passer le concours, mais étant élève à Talm, en fait, j'ai passé un entretien et j'ai envoyé un dossier, donc en fait, j'ai été sélectionnée, pas via le concours, mais via ce dossier et cet entretien que j'ai passé avec les profs qui sont aujourd'hui mes profs.
Et donc, ça se passe bien pour l'instant ? Là, tu es en deuxième année, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ça se passe bien, très bien même. C'est des études qui sont très demandeuses par rapport à ce qu'on peut entendre penser des beaux-arts. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus scolaire, il y a des cours de physique-chimie, des cours d'anglais de nouveau. Donc, mais ça me plaît.
Et niveau horaire court, par rapport à l'art quand même ?
De passer d'une cinquième année, oui, où on fait soi-même son propre programme à une première année de nouveau, parce que je suis rentrée en première année de licence CRBC. C'est sûr que c'est de nouveau très sérieux, mais on sait pourquoi on le fait. Enfin, moi, je sais pourquoi je le fais.
Bah, c'est le principal. Merci beaucoup, en tout cas.
Eh bien, bonjour. Je m'appelle Diego Movilla, je suis artiste, plasticien, et j'enseigne à Talm Tours Depuis maintenant 6 ans, donc j'enseigne ici les pratiques du dessin, et la gravure, la sérigraphie, mais j'accompagne également un peu l'ensemble des étudiants sur le suivi des projets pour voilà, les accompagner un peu vers les diplômes et vers la vie qui vient après l'école. Eh bien, la gravure, c'est une technique d'impression qui est un peu, ça pourrait être l'ancêtre de l'imprimerie. Et donc, on va travailler sur des matrices. Il y a différentes techniques. On a la technique de la taille d'épargne qui va être de la gravure directe sur bois. Et donc, on travaille avec des gouges. On va en quelque sorte tailler une image dans les bois. Et ensuite, on va appliquer de l'encre d'un rouleau sur cette matrice en bois et on va les passer en presse pour que l'image soit transférée sur un papier. Et donc ça, c'est pour la taille d'épargne. Et ensuite, on a tout ce qui est la taille douce qui va être un travail sur métal. Et là, il y a différentes techniques, mais habituellement, on passe par une morsure à l'acide ou avec des produits chimiques qui vont creuser le métal, donc mordre le métal, et ces morsures vont permettre à l'encre de se loger à l'intérieur, et ensuite, même histoire, un passage à la presse pour transférer l'image de la plaque vers le papier.
D'accord. Et toi, du coup, ce que tu proposes, c'est un accompagnement des étudiants et étudianteuses sur ces techniques-là?
Alors oui, il y a une partie initiation, un peu apprentissage des gestes basiques, des gravures, les fonctionnements de l'atelier, les différents outils, les différentes techniques. Et ensuite, surtout, on va accompagner les étudiants sur leur projet. L'idée, c'est qu'ils puissent s'emparer les techniques pour les appliquer dans leurs propres pratiques. Et voilà, donc on est moins dans une logique un peu d'art appliqué, plus dans un travail artistique. Et donc on fait en compte que ce soit la sérigraphie, la gravure ou l'impression numérique ne sont que des outils au service du propos que l'étudiant a envie de développer. Et nous, en tant que professeurs, on est là pour accompagner principalement les propos et les problématiques que l'étudiant ou étudiante cherche à aborder.
Première année, on peut déjà commencer à pratiquer la gravure?
Ce n'est pas prévu dans les programmes pédagogiques. Et ceci dit, on a également des temps de monitorat. Donc c'est une étudiante qui a déjà passé par les cours de gravure qui va assurer quelque sorte de présence et d'accompagnement en atelier. Et à ce moment-là, dès la première année, on peut venir voir les ou la moniteur pour commencer un peu à découvrir les travaux de la gravure. Sinon, pour ce qui est de l'offre pédagogique, ça commence en deuxième année.
Et au tout début de cette interview, tu nous as dit que tu étais artiste. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à pallier les deux, en même temps professeur et en même temps artiste? Est-ce que c'est un statut un peu difficile parfois?
Alors, j'ai envie de dire non. Ma vie est quand même un peu plus cool depuis que je suis professeur et artiste, parce qu'avant j'étais artiste et quelque chose d'autre systématiquement. Et c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours eu des plans ici et là. C'est quand même très compliqué d'imaginer qu'on puisse uniquement vivre de la vente d'œuvres ou des projets artistiques. Alors, je sais que c'est possible, mais déjà, une, il faut avoir envie, et deux, il faut y arriver. Moi, j'ai toujours aimé avoir différentes activités, différentes vies, entre guillemets, dans une seule vie. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Et je dirais même presque que l'enseignement est une extension de mon travail d'artiste. On est artiste et enseignant, comme on est artiste et qui travaille à l'atelier, artiste et qui fait une conférence, artiste et qui va montrer son travail dans une expo ou dans un autre cadre. Et donc tout ça collabore. Et puis il y a des passages où on est plus pris par l'enseignement et par l'école, et il y a d'autres où on va un petit peu pouvoir lever les pieds à certains endroits et travailler plus à l'atelier. C'est une question d'équilibre.
je vais arrêter de parler parce que genre il y a du bruit qui est magnifique et c'est Uliel, c'est ça qui a explosé, ouais. Donc c'est une L2 qui fait l'audiovisuel, voilà, et c'est plutôt cool ce qu'elle fait, du coup voilà. Et du coup, bah, en fait, le couloir, c'est aussi un espace d'accrochage, comme dans le hall, où sont accrochés les SES. Et c'est souvent là où on va passer nos bilans. Donc les bilans, c'est un examen qu'on passe à chaque fin de semestre pour voir où on en est, et on est noté. Et tout le monde a peur. non, tout le monde est stressé, parce qu'on veut tous faire, on veut tout faire bien, voilà.
Et toi, comment est-ce que tu es rentrée dans l'école ? Tu es rentrée directement par concours ?
Oui, je suis rentrée directement par concours. Après, moi, j'ai un parcours assez spécial. Mais c'est par concours. Après 2 mois de préparation.
Peut-être tu peux parler de ton parcours un petit peu atypique. Parce que pour dire que, en fait, les Beaux-Arts, c'est ouvert à tout le monde.
Il faut savoir que moi, après le... Bon, j'ai 23 ans. Après le lycée, j'ai décidé de faire une fac de langue au Tanner, du coup. Mais j'étais complètement paumée. J'étais bonne élève, hein. J'étais très bonne élève là-bas. Les profs m'appréciaient, mes potes m'appréciaient. Enfin, j'étais plutôt bien, socialement parlant. Mais j'avais un souci identitaire d'appartenance, en fait, que je me retrouvais pas du tout dans la fac. C'était vraiment pas mon bail. À cause d'un souci de burn-out et de... qu'est-ce que je fous là, quoi ? J'ai décidé, en fait, de me tourner vers ce qui était complètement naturel pour moi, c'est l'art. Et j'ai complètement arrêté la fac en mi-troisième année. J'ai trouvé un atelier, j'ai mis toutes mes économies dedans et j'ai bossé à fond pendant 2 mois parce que c'est assez compétitif, en fait, le monde de l'art, même s'il y a beaucoup d'entraide, c'est plutôt compétitif. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire aussi sur moi-même, sur comment j'abordais la question de l'art, la plasticité... en elle-même et pendant ces 2 mois j'ai bossé à fond, genre jour et nuit, je rigole pas, j'ai passé les concours et je suis ici maintenant en troisième année et ma foi ça se passe plutôt bien.
Ouais, c'est trop beau. Encore ou pas? Ok, trop bien.
Alors là, nous nous situons dans la menuiserie de Talmetour et je suis avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Louise.
Qu'est-ce que tu fais toi ici dans cette école ?
Pour l'instant, pas grand-chose parce que c'est les portes ouvertes. On est en train de faire visiter, de donner la possibilité aux gens de visiter l'école et de leur expliquer un peu le fonctionnement d'une école d'art et notamment celle de Tours. Voilà, donc on est quand même pas mal occupé et là on est en train de s'occuper d'un autre projet.
Tu peux nous en dire quelques mots ou pas ?
Oui, alors je pourrais expliquer vaguement de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'on est dans un système avec un distributeur de tickets comme on a à la Sécu par exemple, et là il s'agit de le transformer un peu pour qu'il réponde à notre demande et pas à son fonctionnement normal. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y aura certainement une partie un peu électronique à gérer.
Est-ce qu'on peut dire que tu es le couteau suisse de l'école ?
Alors je suis peut-être le couteau suisse, mais j'en suis un des couteaux suisses de l'école parce que je pense qu'on est tous amenés à être un peu couteau suisse dans une école d'art parce que c'est un peu ça peut parfois être rock'n'roll.
Mais par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu aides les étudiants ? Tu les accompagnes ? Tu fais des choses pour eux ?
Alors, je fais des choses avec eux, pas pour eux. Le principe, il est de travailler avec eux, de les accompagner dans un projet et de répondre le plus fidèlement à leur demande, parce que ce n'est pas une demande de ma part, hein, c'est leur demande. Et puis, avec un projet, une idée. Et ce que je dis souvent, hein, c'est que moi, j'amène une aide technique, enfin, dans la mesure où je suis capable de l'amener, dans la mesure de mes capacités, mais voilà, on essaye d'être le plus fidèle et de répondre le plus fidèlement à la mise en place du projet. Voilà.
Eh bien super, merci beaucoup Olivier.
De rien, c'était avec plaisir Louise.
L'art, c'est une version des études qu'on n'a jamais vues auparavant et que ça nous donne une liberté d'expression et de communication en fait, entre nous. Et je trouve que ça m'a beaucoup apporté, malgré les problèmes dans cette école et dans les autres écoles d'art, ça m'a apporté plus de maturité que ce que la fac m'a apporté.
Okay. Et donc pour ceux qui hésiteraient encore, tu dirais foncez, quoi.
Mais clairement. Genre en réfléchissant bien sûr à un plan, moi ce que j'ai fait c'est plan A, plan B, plan C en fait, parce que c'est, en fait faut se rendre compte que l'art en fait c'est pas pour tout le monde, c'est pour les yeux de tout le monde mais c'est pas pour tout le monde, faut être vraiment passionné par ce qu'on fait, c'est des études de passion en fait. Et si on n'est pas passionné, ben, on va se retrouver devant un mur et il va falloir prendre des décisions et il faut réfléchir aux conséquences derrière. Et surtout, il faut réfléchir aux conséquences de notre passion aussi. C'est-à-dire, quand on va présenter notre travail, il faut mettre notre ego d'un côté parce que, bon, d'accord, on présente une extension de soi, mais on présente aussi quelque chose que les autres n'ont probablement jamais vu et ne comprennent pas, donc il faut leur expliquer, et s'ils envoient des critiques, il ne faut pas le prendre personnellement parce que c'est ça qui va détruire en fait. Voilà, donc il faut mettre l'ego de côté et se dire je suis là pour apprendre, même si c'est dur de recevoir des critiques sur quelque chose de profondément personnel. Donc il faut réfléchir en fait, voilà. Mais oui, lancez-vous en fait, genre.